Récit de persécution partie Yimé, comme alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant. Gal 4, 29. En effet, tous ceux qui sont déterminés à vivre pieusement en Christ Jésus souffriront la persécution. 2 Tim 3, 12. Exemples de la justice du procès légal rendu aux Quakers dans le pays de la Magna Carta. Le procès de William Penn, fondateur de la Pennsylvanie, et de William Mead, tous deux éminents ministres Quakers, Penn défend avec tant d'aptitude les droits d'un Anglais que le jury les déclare innocents. Le jury défie ensuite l'exigence des juges de modifier le verdict en culpabilité, de sorte que Penn et le jury sont envoyés en prison. Un tel record d'injustice est une raison d'être reconnaissant de vivre dans un pays libre de pareil abus arbitraire de pouvoir, puisse-t-il en être ainsi pour toujours. Les recours contre les injustices de ce procès finirent par amener le Lord Chief Justice d'Angleterre à établir un nouveau précédent juridique. On ne peut pas forcer un jury à rendre un verdict. Ainsi naquit le concept de nullification par jury. En Angleterre et aux États-Unis, les juries continuent d'avoir le droit de refuser de condamner si la loi viole leur conscience. Le récit suivant est tiré de l'histoire d'un peuple appelé Quakers, 1695 de William Soule. Soule a été élevé Quake aux Pays-Bas, une génération après les événements ci-dessous. Il avait accès au registre du tribunal et a interrogé de nombreux témoins oculaires des événements qu'il relatait. À ce titre, il est considéré comme l'historien de référence du mouvement. Or, bien que la persécution ne fût pas aussi grave à Londres que dans d'autres endroits du pays, elle y était pourtant parfois très sévère, comme on peut le voir à l'exemple de William Penn et de William Mead, qui furent enlevés d'une réunion et emprisonnés, puis jugés à Elhold Bellay, l'ancien tribunal d'Angleterre. L'acte d'accusation stipulait que William Penn et William Mead, avec plusieurs autres personnes, au nombre de 300 à Gracechurch Street, la plus grande maison de réunion des Quakers londoniens à Londres, le 15 août avec force et armes, s'étaient assemblés tumultueusement, et que William Penn, par accord entre lui et William Mead, y avait prêché dans la rue publique, ce qui avait causé un grand concours et tumulte du peuple. Que la réunion publique eût eu lieu dans la rue provenait de la nécessité, car une garde avait été placée à la porte pour empêcher les Quakers d'entrer dans leur maison de réunion. Mais c'était un grand mensonge qu'ils se fussent réunis avec force et armes, lesquelles n'ont jamais été utilisées par les Quakers. L'acte d'accusation ayant été lu devant le tribunal, on demanda aux prisonniers, selon l'usage, de plaider coupable ou non coupable. Alors William Penn dit « Il est impossible que nous puissions nous souvenir mot à mot de l'acte d'accusation, et c'est pourquoi nous en demandons une copie, comme il est d'usage en pareil cas. » L'enregistreur, recorder, John Howell, dit alors « Vous devez d'abord plaider sur l'acte d'accusation avant de pouvoir en avoir une copie. » William Penn dit ensuite qu'il désirait d'abord qu'aucun avantage ne fût pris contre lui, ni qu'il fût privé d'aucun bénéfice qu'il pourrait autrement recevoir, et que le tribunal lui promet une audition équitable et la liberté de présenter sa défense. Sur quoi le tribunal dit qu'aucun avantage ne serait pris contre lui, qu'il aurait liberté et qu'il serait entendu. William Penn déclara alors qu'il plaidait non coupable en manière et forme. On demanda ensuite à William Mead de plaider, s'il était coupable ou non coupable, et il répondit la même chose que William Penn. Le tribunal poursuivit alors l'affaire de juger des voleurs et des meurtriers, faisant attendre les prisonniers 5 heures, puis les renvoya en prison, et, au bout de 2 jours, les fit comparaître de nouveau. Alors les officiers du tribunal ayant retiré les chapeaux des prisonniers, le Lord Mayor, Samuel Stalling, montra son mécontentement et ordonna aux officiers de remettre leurs chapeaux. Ce qui fut fait, mais l'enregistreur John Howell, qui en toute occasion faisait preuve de férocité, les accusa de ne montrer aucun respect au tribunal, et les condamna pour cela à une amende de 40 marks chacun, parce qu'ils n'avaient pas ôté leur chapeau. Là-dessus, William Penn dit qu'il désirait que l'on observe qu'ils étaient entrés au tribunal la tête découverte, c'est-à-dire chapeau ôté, et que, si on le leur avait remis, c'était sur ordre du banc, et qu'en conséquence ce n'étaient pas les prisonniers, mais le banc qui devait être condamné à l'amende. Le jury ayant alors prêté serment et l'acte d'accusation ayant été lu à nouveau, on appela les témoins, qui déclarèrent avoir vu William Penn parler au peuple, assemblé en grand nombre dans Gracechurch Street, mais ils n'avaient pas entendu ce que Penn avait dit. L'enregistreur demanda alors à William Mead s'il était là. Celui-ci répondit « C'est une maxime de votre propre loi, ne mutuntur sipsum accusazar, et si ce n'est pas du vrai latin, je suis certain que c'est du bon anglais, puisqu'aucun homme n'est tenu de s'accuser lui-même, pourquoi donc cherchez-vous à me prendre au piège avec une telle question ?» Ce qui mécontenta tellement l'enregistreur qu'il dit « Monsieur, taisez-vous, je n'ai pas cherché à vous tendre un piège. » Alors William Penn dit « Nous avons être bien loin de nous rétracter, ou de refuser de justifier notre assemblée pour prêcher, prier ou adorer le Dieu éternel, saint et juste, nous déclarons au monde entier que nous croyons que c'est notre devoir indispensable de nous réunir sans cesse pour un si bon motif, et aucune puissance sur la terre ne pourra nous détourner de révérer et d'adorer notre Dieu qui nous a fait. Le shérif, Richard Brown, dit « Vous n'êtes pas ici pour adorer Dieu, mais pour enfreindre la loi. Vous vous faites beaucoup de tort en poursuivant ce discours. » Alors William Penn répondit « J'affirme n'avoir enfreint aucune loi, et je ne suis pas coupable de l'acte d'accusation porté contre moi, et afin que le banc, le jury et moi-même, ainsi que ceux qui nous entendent, ayons une compréhension plus directe de cette procédure, je vous prie de me faire savoir en vertu de quelle loi vous me poursuivez, et sur quelle loi vous fondez mon accusation. » L'enregistreur répondit « Sur la common law, ouais, demanda Penn cette common law. Vous ne devez pas penser, dit l'enregistreur, que je sois capable de remonter tant d'années et à travers tant de cas jugés, que nous appelons common law, pour satisfaire votre curiosité. » Cette réponse, répliqua William Penn, et j'en suis sûr bien loin de ma question, car si elle est commune, elle ne devrait pas être si difficile à produire. L'enregistreur répliqua « Monsieur, voulez-vous plaider sur votre acte d'accusation ?»« Devrais-je ?» répondit William Penn, « plaider sur une accusation qui n'a aucun fondement en droit. Si elle contient la loi que vous dites que j'ai violée, pourquoi refuser de produire cette loi, puisque le jury ne pourra ni déterminer ni s'accorder sur son verdict si la loi n'est pas produite, loi par laquelle il devrait mesurer la vérité de cet acte d'accusation et la culpabilité ou non de mon fait ?» L'enregistreur, irrité, dit « Vous êtes un insolent, parlez de l'acte d'accusation. » William Penn répondit « Je dis qu'il m'appartient de parler du droit. Je suis traduit en justice comme prisonnier, ma liberté, qui vient juste après la vie elle-même, est ici en jeu. » À ce moment, plusieurs juges parlèrent durement contre le prisonnier pour tenter de l'intimider. Penn dit « Vous êtes de nombreuses bouches et oreilles contre moi, et si l'on ne m'autorise pas à faire valoir au mieux ma cause, cela n'est guère équitable. Je le dis encore, à moins que vous ne me montriez à moi et au peuple la loi sur laquelle vous fondez cette accusation, je tiendrai pour acquis que votre procédure est purement arbitraire. » L'enregistreur répondit alors, « La question est de savoir si vous êtes coupable de cette accusation. La question, dit William Penn, n'est pas de savoir si je suis coupable de cette accusation, mais si cette accusation est légale. Dire que c'est la common law est une réponse trop générale et imparfaite, à moins que nous ne sachions à la fois où elle se trouve et ce qu'elle est. Car là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression, et une loi qui n'existe pas est si loin d'être commune qu'elle n'est pas une loi du tout. » L'enregistreur lui lança « Vous êtes un impertinent, allez vous apprendre au tribunal ce qu'est la loi. » C'est la common law d'Angleterre, celle que beaucoup ont étudié 30 ou 40 ans pour la connaître, et vous voudriez que je vous la dise en un instant. « Certainement, répondit Penn, si la common law est si difficile à comprendre, elle est loin d'être très commune, mais si Lord Coke dans ses instituts mérite quelques considérations, il nous dit que la common law est le droit commun, et que ce droit commun, ce sont les privilèges de la grande charte confirmée 9N. 3 29, 25 Edo 1, 1 9 Edo 3, 8 Institut de Coke 2 p 56, l'enregistreur ne goûtant pas ce discours dit « Monsieur, vous êtes un homme encombrant, et il n'est pas honorable pour le tribunal de vous laisser continuer. » Je n'ai, répliqua William Penn, posé qu'une seule question, et vous ne m'y avez pas répondu, alors même que les droits et privilèges de chaque Anglais y sont concédés. Eh bien, dit l'enregistreur, si je vous laissais poser des questions jusqu'à demain matin, vous n'en seriez pas plus avisé. C'est, dit William Penn, selon la teneur des réponses. Mais, dit l'enregistreur, nous ne pouvons pas rester là à vous entendre parler toute la nuit. Penn répliqua alors, je ne souhaite manquer de respect au tribunal, mais être entendu dans ma juste plaidoirie. Et je dois vous dire clairement que si vous me refusez l'audition de cette loi que vous prétendez que j'ai enfreinte, vous me refusez du même coup un droit reconnu, et vous montrez au monde entier votre résolution de sacrifier les privilèges des Anglais à vos desseins perfides et arbitraires. » Ce qui mit l'enregistreur dans une telle fureur qu'il appela les officiers « Emmenez-le ». Et il dit au Lord Maire « Monseigneur, si vous ne prenez pas quelques mesures contre ce pestilent individu pour lui fermer la bouche, nous ne pourrons rien faire ce soir. » Alors le Lord Maire cria « Emmenez-le, emmenez-le, jetez-le dans le banc des accusés. » William Penn, voyant combien force et violence prévalaient, dit « Ce ne sont là que de vaines exclamations, est-ce la justice ou un vrai jugement? Faut-il donc m'emmener parce que je plaide pour les lois fondamentales de l'Angleterre ?» Puis s'adressant au jury, il dit « Quoi qu'il en soit, j'en appelle à vos consciences, vous qui composez le jury et êtes mes seuls juges, si ces anciennes lois fondamentales relatives à la liberté et à la propriété, et qui ne sont pas limitées à des persuasions particulières en matière de religion, ne doivent pas être maintenues et observées de manière indispensable, qui peut dire qu'il a droit au manteau qu'il porte sur le dos. Assurément, nos libertés vont être ouvertement envahies, nos femmes violées, nos enfants réduits en esclavage, nos familles ruinées et nos biens emmenés en triomphe par tout mendiant robuste et informateur malveillant, comme leurs trophées, sous prétexte de nos prétendues confiscations pour cause de conscience. Le Seigneur du ciel et de la terre jugera entre nous en cette affaire. » L'audition de ce discours si appuyé fut si pénible pour l'enregistreur qu'il cria « Silence, là-bas !» Ce à quoi William Penn répondit « Je ne dois pas me taire dans une cause qui me concerne à ce point, et non seulement moi, mais encore des dizaines de milliers de familles. » Penn fut traîné dans le banc des accusés, ce fut au tour de William Mead de plaider, et il dit ceci « Vous, homme du jury, je me tiens ici pour répondre à une accusation contre moi qui n'est qu'un amas de choses plein de mensonges et de faussetés. Car on m'y accuse de m'être réuni avec force et armes, illégalement et tumultueusement. Il fut un temps où j'avais la liberté d'employer une arme charnelle, et alors je pensais ne craindre aucun homme, mais maintenant je crains le Dieu vivant et n'ose pas faire usage d'armes ni faire de mal à quiconque, et je ne sais pas que je me sois comporté en homme tumultueux. Je dis que je suis un homme paisible, c'est pourquoi la question que William Penn a demandée en cette affaire, à savoir l'audition de la loi sur laquelle notre accusation est fondée, était tout à fait pertinente. À cela l'enregistreur dit « J'ai déjà répondu à cela. » William Mead, se tournant alors vers le jury, « Dites-vous, homme du jury, qui êtes mes juges, si l'enregistreur ne vous dit pas ce qui constitue une émeute Rio, une attroupement roux ou une assemblée illégale, que celui qu'on appelait autrefois Lord Coke nous dit ce qui constitue une émeute, un attroupement ou une assemblée illégale. Une émeute, c'est lorsque trois personnes ou plus se réunissent pour battre un homme, ou pour entrer de force sur la terre d'un autre, pour couper son herbe, son bois, ou abattre sa clôture. » L'enregistreur l'interrompit et, lui retirant son chapeau avec mépris, dit « Je vous remercie, monsieur, de me dire ce qu'est la loi. » Et Richard Brown, cet ennemi invétéré des Quakers, dit « Il parle au hasard, tantôt d'un indépendant, tantôt d'une autre religion, et maintenant d'un Quaker, et ensuite d'un papiste. » Mead, ne voulant pas offenser ouvertement cet alderman, lui cita ce vers latin bien connu « Turp et doctori cum culp redargi ipsum » un professeur est déshonoré lorsque la faute se réfute elle-même. Car Brown lui-même avait autrefois été un puritain indépendant, mais il s'était ensuite rallié à l'Église d'Angleterre et soutenait le parti de la cour. La cour du roi était anglicane et très opposée aux Quakers, qui réduisaient sérieusement leurs effectifs et menaçaient la structure financière de l'Église d'Angleterre. Les autorités de Londres, dont le Lord Maire et le shérif Brown, persécutaient les Quakers afin de conserver et de gagner les faveurs de l'administration de la cour du roi. Mais le Lord Maire, qui semblait être un grand ami de Brown, dit à Mead, « Vous méritez qu'on vous coupe la langue. » Et ajouta l'enregistreur, « Si vous continuez à parler de cette façon, je saisirai l'occasion contre vous. » Mead répliqua, « Vous m'avez promis que j'aurais toute liberté équitable d'être entendu. Pourquoi n'aurais-je pas le privilège d'un Anglais ? Vous devriez avoir honte d'agir ainsi. » À cela l'enregistreur envieux dit, « Je vous considère comme un ennemi des lois d'Angleterre, qui doivent être observées et gardées. Vous n'êtes pas digne de privilèges comme les autres. » Mead, voyant bien que force et violence dominaient dans la salle d'audience, et que ses paroles ne pouvaient l'aider, dit d'un esprit calme, « Que le Seigneur juge entre moi et vous en cette affaire. » Sur quoi, on l'emmena dans le banc des accusés, et l'enregistreur donna au jury les instructions suivantes, « Vous avez entendu ce qu'est l'acte d'accusation ? Il porte sur le fait de prêcher au peuple et d'attirer derrière eux une compagnie tumultueuse et aime. » Penn parlait, « Si on ne les arrête pas, vous voyez qu'ils continueront, trois ou quatre témoins ont prouvé cela, qu'ils prêchaient là, et que M. Mead l'approuvait. Ensuite, vous avez entendu des témoins substantiels confirmant les charges portées contre eux. Nous en sommes maintenant aux faits, auxquels vous devez vous en tenir et que vous devez observer, comme ce qui a été pleinement juré, à vos risques et périls. » Que l'enregistreur parla ainsi au jury en l'absence des prisonniers était en vérité irrégulier. C'est pourquoi William Penn, qui l'entendit de loin, parla d'une voix très forte afin d'être entendu de ce qui était sur le banc, en disant « J'en appelle au jury, qui sont mes juges, et à cette grande assemblée. Les procédures du tribunal ne sont-elles pas des plus arbitraires et dépourvues de toute loi, puisqu'on propose de donner au jury ses instructions en l'absence des prisonniers ? Je dis que cela est directement opposé au droit incontestable de tout prisonnier anglais, et le détruit, comme Coke le dit dans le 2 Inst, au chapitre de la Magna Carta. » L'enregistreur, ainsi pris à l'improviste et fouetté pour sa procédure extrajudiciaire, dit avec un sourire de dédain, « Mais enfin, vous êtes présent, vous entendez, n'est-ce pas ?» Penn répondit, « Ce n'est pas grâce au tribunal, qui m'a ordonné d'entrer dans le banc des accusés, et vous, membres du jury, notez que je n'ai pas été entendu, et que vous ne pouvez légalement quitter le tribunal avant que j'aie été pleinement entendu, ayant au moins 10 ou 12 points importants à présenter pour invalider leur accusation. Cette franchise de William Penn mit l'enregistreur dans une telle rage qu'il cria « Faites descendre ce type, faites-le descendre !» Car pour être mieux entendu, Penn s'était hissé un peu sur les barreaux du banc des accusés. Alors William Mead dit « Est-ce conforme aux droits et privilèges des Anglais que nous ne soyons pas entendus, mais placés dans le banc des accusés pendant que nous présentons notre défense et que le jury reçoive ses instructions en notre absence ?» Je dis que ce sont là des procédures barbares et injustes. L'enregistreur, plus irrité encore, cria « Emmenez-les dans le trou, les entendre parler toute la nuit comme ils le voudraient, je pense que cela ne convient pas à l'honneur du tribunal. » Les prisonniers furent gardés dans un trou puant et on ordonna au jury de monter aller à l'étage dans la salle de délibération du jury pour s'accorder sur leur verdict et au bout d'une heure et demie, 8 redescendirent d'accord, mais 4 restèrent en haut. Le tribunal envoya alors un officier les chercher et ils descendirent en conséquence. Mais le tribunal proféra beaucoup de menaces indécentes à l'encontre des 4 dicides, et après bien des paroles intimidantes et un comportement très impérieux envers le jury, les prisonniers ayant été amenés à la barre, on demanda au président du jury « Qu'en dites-vous ? William Penn est-il coupable du fait pour lequel il est inculpé, en manière et forme, ou non coupable ?»« Président, coupable d'avoir parlé dans Gracechur Street. » La question suivante fut « Est-ce tout, président, c'est tout ce qui m'a été confié ?» Cette réponse déplut tellement à l'enregistreur qu'il dit « Autant ne rien dire. » Et le Lord Mayor, Stirling, dit « N'était-ce pas une assemblée illégale ? Vous voulez dire qu'il parlait à une foule tumultueuse de personnes là-bas ?» À quoi le président répondit « Monseigneur, c'est tout ce qui m'a été confié. » Certains jurés semblèrent alors céder aux questions du tribunal, mais d'autres s'opposèrent à ces questions suggestives et dirent qu'ils n'admettaient pas, dans leur verdict, un terme tel qu'assemblée illégale. Or, certains juges sur le banc saisirent l'occasion de les vilipender par des propos injurieux. Et comme le tribunal ne voulait pas renvoyer le jury avant qu'il ait donné un verdict plus satisfaisant, ils demandèrent plume, encre et papier et remontèrent. Puis, au bout d'une demi-heure, ils revinrent et remirent par écrit le verdict suivant. Nous, jurés ci prénommés, déclarons William Penn coupable d'avoir parlé ou prêché à une assemblée réunie dans Gracechur Street, le 14 août dernier 1670, et William Mead non coupable de ladite accusation. Le maire et l'enregistreur prirent ce verdict si mal qu'ils dépassèrent les bornes de toute modération et civilité, et l'enregistreur dit « Messieurs, vous ne serez pas renvoyés tant que nous n'aurons pas un verdict que le tribunal acceptera, et vous serez enfermés sans nourriture, boisson, feu et tabac, ne pensez pas ainsi abuser le tribunal, nous aurons un verdict avec l'aide de Dieu, ou vous mourrez de faim pour cela. » Or, bien que le jury eût rendu son verdict et indiqué qu'il ne pouvait en donner d'autre, tout fut vain, et William Penn, voyant combien ils étaient traités déraisonnablement, dit « Mon jury, qui sont mes juges, ne doit pas être menacé, leur verdict doit être libre et non contraint, le banc doit attendre après eux et non les devancer. Je demande que justice me soit faite et que les résolutions arbitraires du banc ne soient pas la mesure du verdict de mon jury. » Cette parole modérée irrita tellement l'enregistreur qu'il cria « Fermez la bouche de ce bavard ou mettez-le dehors du tribunal. » Et le Lord Mayor dit au jury « Vous avez entendu qu'il a prêché, qu'il a rassemblé une compagnie de gens tumultueux et qu'ils n'ont pas seulement désobéi à la puissance militaire, mais aussi à la puissance civile. » William Penn répondit « C'est une grande erreur, nous n'avons pas fait le tumulte avant qu'on nous interrompe. » Le jury ne peut être assez ignorant pour penser que nous nous sommes réunis là dans l'intention de troubler la paix civile, puisque, premièrement, nous avons été, par force d'armes, tenus à l'écart de notre maison de réunion légitime et nous nous sommes rassemblés dans la rue, aussi près que les soldats le permettraient. Et, deuxièmement, parce que ce n'était pas une chose nouvelle, ni avec les circonstances exprimées dans l'acte d'accusation, mais ce qui nous était habituel et coutumier. Il est très bien connu que nous sommes un peuple paisible et que nous ne pouvons offrir de violence à aucun homme. » Le tribunal, étant maintenant résolu à envoyer les prisonniers à leur geôle et le jury dans sa chambre, Penn parla ainsi « L'accord de 12 hommes est un verdict en droit, et un tel verdict ayant été rendu par le jury, j'exige que le greffier de la paix l'inscrive, comme il en répondra à ses risques et périls. » Et si le jury rend un autre verdict contradictoire à celui-ci, j'affirme qu'en droit ils sont des hommes parjures. Et regardant le jury, il dit « Vous êtes des Anglais, souvenez-vous de votre privilège, n'abandonnez pas votre droit. » Ce à quoi Buchel, l'un d'eux, répondit « Et nous ne le ferons jamais. » Un autre juré invoqua une indisposition corporelle et demanda donc à être renvoyé, mais le Lord Mayor dit « Vous êtes aussi robuste que n'importe lequel d'entre eux, faites-les mourir de faim et tenez vos principes. » À quoi l'enregistreur ajouta « Messieurs, vous devez vous contenter de votre rude sort, que votre patience le surmonte, car le tribunal est résolu à obtenir un verdict et à obtenir ce verdict avant que vous ne puissiez être renvoyé. Et bien que les jurés aient dit « Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord », le tribunal fit prêter serment à plusieurs personnes pour garder le jury toute la nuit, sans nourriture, boisson, feu ni aucune autre commodité. Non, ils n'eurent même pas un pot de chambre, pas de toilette à cette époque, seulement un pot bien qui les demandait. Ainsi force et violence prévalurent. Le lendemain, bien que ce fût le premier jour de la semaine, appelé dimanche par le monde, le tribunal siégea de nouveau, les prisonniers furent amenés à la barre, le jury fut appelé, et l'on demanda à son président « William Penn est-il coupable du fait pour lequel il est inculpé, en manière et forme susdite ou non coupable ?» Il répondit, comme auparavant, « William Penn est coupable d'avoir parlé d'Engracechur Street. » Le Lord Maire demanda alors, à une assemblée illégale, Edward Buchel répondit, « Non, Monseigneur, nous ne rendons pas d'autre verdict que celui d'hier soir, nous n'avons pas d'autre verdict à rendre. Vous êtes, répliqua le Lord Maire, un homme factieux. Je prendrai des mesures contre vous. J'ai, dit Buchel, agi selon ma conscience. Cela déplut tellement au maire qu'il dit, « Cette conscience à vous me trancherait la gorge, mais je trancherai la vôtre dès que je le pourrai. » À quoi l'enregistreur ajouta, « Il a inspiré le jury, il a l'esprit de divination, je crois le sentir. J'aurai un verdict affirmatif ou vous mourrez de faim pour cela. » Alors William Penn dit, « Je désire poser une question à l'enregistreur, acceptez-vous le verdict rendu pour William Meade ?» Ce à quoi l'enregistreur répondit, « Cela ne peut pas être un verdict parce que vous êtes inculpé de conspiration, et si l'un est déclaré non coupable et pas l'autre, ce ne peut pas être un verdict. » Ce qui fit dire à peine, si non coupable n'est pas un verdict, alors vous faites du jury et de la Magna Carta une simple cire à modeler. Comment, demanda alors William Meade, non coupable n'est-il pas un verdict? Non, dit l'enregistreur, ce n'est pas un verdict. Je maintiens, répliqua Penn, que le consentement d'un jury est un verdict en droit, et si William Meade est non coupable, il s'ensuit par conséquent que je suis innocent, puisque vous nous avez inculpé de conspiration et que je ne pouvais pas conspirer seul. Après cela, le tribunal parla au jury et le fit remonter de nouveau pour tenter, si possible, de lui extorquer un autre verdict. Puis le jury fut appelé et interrogé par le greffier, « Qu'en dites-vous? William Penn est-il coupable du fait pour lequel il est inculpé, en manière et forme susdite ou non coupable ?» Le président répondit, « Coupable d'avoir parlé d'Engracechur Street. » À quoi l'enregistreur répondit, « En quoi cela répond-il au sujet? Je dis que je veux un verdict. » Et s'adressant à Buchel, il dit, « Vous êtes un factieux, je mettrai une marque sur vous, et tant que j'aurai quelque chose à faire dans la cité, je vous garderai à l'œil. » À cela le maire ajouta, « N'avez-vous donc pas plus d'esprit que de vous laisser mener par un si pitoyable individu? Je lui couperai le nez. » Ainsi le tribunal s'efforça d'intimider le jury, et ce n'était donc pas sans très bonne raison que William Penn dit, « Il est intolérable que mon jury soit ainsi menacé. Est-ce conforme aux lois fondamentales? Ne sont-ils pas mes juges légitimes par la Grande Charte d'Angleterre? Quel espoir y a-t-il d'obtenir jamais justice lorsque les juries sont menacées et que leur verdict est rejeté? Je me dois de parler, et je suis affligé de voir de telles procédures arbitraires. Le lieutenant de la tour n'a-t-il pas traité l'un de plus mal qu'un félon, et ne cherchez-vous pas manifestement à condamner comme factieux ceux qui ne servent pas vos fins? Malheureux sont ces juries qui sont menacés d'être condamnés à l'amende, affamés et ruinés si, dans leur verdict, ils ne contredisent pas leur conscience. » Ces propos francs troublèrent tellement l'enregistreur qu'il dit au Lord Maire, « Monseigneur, vous devez prendre une mesure contre cet individu. » Et alors le maire cria, « Fermez-lui la bouche, geôlier, apportez des chaînes et attachez-le au sol. » À quoi William Penn dit, « Faites à votre guise, je ne crains pas vos chaînes. » L'enregistreur osa alors dire, « Jusqu'ici je n'avais jamais compris la raison de la politique et de la prudence des Espagnols en tolérant l'Inquisition parmi eux. » Et certainement, rien n'ira bien chez nous tant que quelque chose comme l'Inquisition espagnole ne sera pas instituée en Angleterre. On exigea du jury qu'il rende un autre verdict, et comme il disait qu'il ne changerait pas le verdict déjà rendu, l'enregistreur se mit dans une telle colère qu'il dit, « Messieurs, nous ne resterons pas toujours dans cette impasse avec vous. Vous verrez qu'à la prochaine session du Parlement une loi sera faite, selon laquelle ceux qui ne se conformeront pas n'auront pas la protection de la loi. Votre verdict n'est rien, vous vous jouez du tribunal. » Je dis que vous irez ensemble et que vous rapporterez un autre verdict ou vous mourrez de faim, et je vous ferai promener en charrette dans la ville, comme au temps d'Édouard Yi. Le jury, refusant de rendre un autre verdict, puisqu'ils s'étaient tous accordés sur celui qu'ils avaient donné, et se montrant peu disposés à remonter, le Lord Maire dit au shérif de les y contraindre. Le shérif, quittant alors son siège, dit « Allons, messieurs, vous devez monter, vous voyez qu'on m'ordonne de vous y faire aller. » Sur quoi le jury monta, et plusieurs personnes furent assermentées pour les garder sans aucune commodité, comme il a été dit, jusqu'à ce qu'ils rendent leur verdict, et les prisonniers furent renvoyés à Newgate, où ils restèrent jusqu'au lendemain matin, puis furent ramenés au tribunal. Et placé à la barre, le jury fut appelé, et on demanda « William Penn est-il coupable du fait pour lequel il est inculpé, en manière et forme, coupable ou non coupable ?» Le président répondit « Vous avez déjà lu par écrit notre verdict, et nos signatures y sont apposées. » Or, le greffier qui avait ce papier fut empêché par l'enregistreur de le lire, et le tribunal dit que ce papier n'était pas un verdict. Alors le greffier demanda « Qu'en dites-vous, William Penn est-il coupable ou non coupable ?» Le président répondit « Non coupable ». La même question étant posée concernant William Meade, le président répondit de même, un non coupable. Le greffier demanda ensuite au jury s'ils disaient tous cela, ils répondirent, nous le disons. Le banc, toujours insatisfait, ordonna que chaque personne réponde distinctement à l'appel de son nom et rende son verdict, ce qu'ils firent unanimement en disant non coupable. L'enregistreur, qui ne pouvait le supporter, dit « Je suis désolé, messieurs, que vous ayez suivi vos propres jugements et opinions plutôt que le bon et salutaire conseil qui vous a été donné. Que Dieu garde ma vie hors de vos mains, mais pour cela le tribunal vous condamne à 40 marks d'amende par homme et à l'emprisonnement jusqu'au paiement. » William Penn s'avançant alors vers le banc, dit « Je réclame ma liberté ayant été acquitté par le jury. » « Non, dit le Lord Maire, vous êtes détenu pour vos amendes. »« Des amendes, répliqua Penn, pourquoi ?» Pour outrage au tribunal, dit le Lord Maire. Je demande, répondit Penn, si c'est conforme aux lois fondamentales de l'Angleterre que tout Anglais soit condamné à une amende ou puni arbitrairement, autrement que par le jugement de ses pairs ou d'un jury. Puisque cela contredit expressément les chapitres 14 et 29 de la Grande Charte d'Angleterre, qui disent « Aucun homme libre ne doit être arbitrairement puni, sinon par le serment de bons et légaux hommes du voisinage. » Au lieu de répondre à cette question, l'enregistreur cria « Emmenez-le, emmenez-le !» Faites-le sortir du tribunal. Sur quoi William Penn dit « Je ne puis jamais invoquer les lois fondamentales de l'Angleterre sans que vous ne criez « Emmenez-le, emmenez-le ». Mais il n'y a rien d'étonnant, puisque l'Inquisition espagnole tient une si grande place dans le cœur de l'enregistreur. Dieu Tout-Puissant, qui est juste, vous jugera pour toutes ces choses. On ne permit plus à William Penn de parler, mais lui et William Meade furent traînés dans le banc des accusés et de la renvoyer à Newgate ainsi que tout leur jury. D'après la biographie de William Penn, Penn, Meade et le jury furent alors envoyés à la prison de Newgate, où ils refusèrent simplement d'acheter leur liberté en payant les amendes injustes. De là, Penn écrivit à son père « Je t'en prie, ne rachète pas ma liberté. Ils se repentiront de leurs agissements. Je suis maintenant prisonnier notoirement contre la loi. » Dans une autre lettre, il écrivit « Considérant que je ne puis être libre qu'à des conditions qui renforceraient leurs procédures arbitraires et basses, je préfère choisir de souffrir toute dureté. » Ma contrainte actuelle est si loin d'être un caprice que je préférerais périr plutôt que de me délivrer par un moyen aussi indirect, destiné à rassasier leur appétit de vengeance et d'avarice. La question du droit des juges à infliger des amendes au jury fut finalement portée devant la cour comme on please, qui décida que les amendes étaient illégales et ordonna la libération du jury. Penn et Meade, cependant, avaient été condamnés à une amende pour avoir porté leur chapeau au tribunal, et nul ne sait combien de temps ils auraient pu être maintenus en prison si l'amiral, qui était malade, n'avait pas ignoré les lettres de son fils et payé les amendes de Penn et de Meade, après quoi ils furent aussitôt libérés. Penn écrivit plus tard un livre sur ce procès et le publia. Il fut largement lu en Angleterre et conduisit le Parlement à adopter plusieurs lois visant à empêcher de tels abus extravagants d'un pouvoir judiciaire incontrôlé. L'enregistreur fit l'objet d'une enquête et perdit son poste. Dans son journal, Fox rapporte aussi que, du fait des abus ci-dessus et de bien d'autres, le nom du maire devint une puanteur et le seigneur l'emporta. L'affaire des courageux jurés, Thomas Ver, Edward Bushell et 10 autres fut examinée sur un writ of habeas corpus et le Lord Chief Justice Vaughan rendit l'avis du tribunal qui établit le droit des juries à rendre leur verdict selon leur conviction ou leur conscience. En effet, cela établit le précédent juridique de la nullification par jury, qui existe encore dans les tribunaux des États-Unis et d'Angleterre, bien qu'aux États-Unis, le juge interroge souvent les jurés potentiels sur leur volonté de renoncer à tout désaccord avec la loi, entraînant une nullification, écartant tout juré potentiel qui le ferait, quelle que soit sa conscience. Commentaire de l'éditeur du site, après avoir été libéré, Penn et Meade continuèrent tous deux à servir le Seigneur magnifiquement pendant de nombreuses années. Penn publia un livre sur ce procès, largement lu en Angleterre, et qui entraîna une réforme juridique et la sanction des officiers du tribunal. L'éloquence de Penn, comme on la voit aussi démontrée dans son excellente introduction au journal de Fox, convainquit et motiva le jury à défier les juges perfides, mais elle n'était malheureusement pas typique des procès de Quakers. La norme était de les condamner rapidement avec des juries composées de haineux anti-Quakers, parfois même avec les mêmes soldats qui les avaient arrêtés. Toutefois, le procès de Penn et de Meade illustre la profondeur de la dépravation qui existait chez les responsables protestants de l'époque, motivés par le désir des autorités de l'Église dominante d'éradiquer les Quakers. Comment le refus de prêter serment fut utilisé, Sewall continue entre-temps, examinons la persécution à Southwark. Ici, les réunions des Quakers n'étaient pas moins perturbées qu'à Londres. Plusieurs personnes, ayant été prises lors de leurs réunions religieuses, furent incarcérées, et après avoir été à la prison de Whitelyon environ 9 semaines, elles furent amenées à la barre, où Richard Onslow siégeait comme juge des sessions. L'acte d'accusation rédigé contre elles était le suivant. Les jurés pour notre Seigneur le Roi présentent, sous leur serment, qu'en se fichait, naguère de la paroisse de Saint. Olave, dans le bord de Southwark, dans le comté de Surrey, Yeoman, Nathaniel Robinson du même lieu, Yeoman, John Chandler du même lieu, Yeoman, et d'autres, étant de méchants sectaires dangereux et séditieux et des personnes déloyales, et âgés de plus de 16 ans, qui le 29 jour de juin, dans l'année du règne de notre Seigneur Charlie, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, d'Écosse, de France et d'Irlande, etc. 14e, ont obstinément refusé, et chacun d'eux a obstinément refusé, de fréquenter quelque église, chapelle ou lieu ordinaire de prière commune, conformément aux lois et statuts de ce royaume d'Angleterre. Tel qu'exposé et pourvu en pareil cas après 40 jours à compter de la fin de la session du Parlement commencée et tenu à Westminster le 29 jour de février, dans la 35e année de Notre-Dame Elizabeth, naguère reine d'Angleterre, et continué jusqu'à sa dissolution, étant le 10 jour de savoir le 3e jour d'août, dans la 14e année du règne du dit Charles, roi d'Angleterre susdit, dans la paroisse de Saint. Olave susdit, dans le borough de Southwark susdit, dans le comté susdit d'eux-mêmes, ont volontairement et illégalement adhéré à, et ont été présents à, une assemblée illégale, conventicule et réunion, dans la dite paroisse de Saint. Olave dans le comté susdit, sous couleur et prétexte d'exercice de la religion, contre les lois et statuts de ce royaume d'Angleterre, au mépris de notre dit Seigneur le Roi qui est maintenant de ces lois, et en exemple mauvais et dangereux pour tous autres contrevenants en pareil cas contre la paix de notre dit Seigneur le Roi qui est maintenant, sa couronne et sa dignité, et contrairement à la forme du statut en ce même cas exposé et pourvu. J'ai inséré cet acte d'accusation afin que le lecteur voie non seulement la manière de procéder, mais aussi de quelle couleur noire et odieuse on représentait les assemblées religieuses de ce qu'on appelait Quakers. Cet acte d'accusation ayant été lu, les prisonniers demandèrent à être jugés d'après le récent acte du Parlement contre les conventicules. Mais on répondit qu'on pouvait les juger selon ce qu'on voudrait, pourvu que ce fût en vigueur. Alors les prisonniers demandèrent que le statut, à savoir, le 35e d'Elizabeth fût lu. Cela fut fait, mais seulement en partie, et l'on dit au greffier que c'était assez. Les prisonniers dirent alors que cet acte avait été fait au temps de l'ignorance, lorsque le peuple sortait à peine de la papauté, et ils montrèrent aussi combien on les traitait injustement. Puis, lorsqu'on leur demanda de plaider coupable ou non coupable à l'acte d'accusation, certains, qui n'étaient pas très empressés de répondre, furent tirés hors du tribunal, comme tenus pour confesser, et ainsi renvoyés en prison. Les autres, au nombre de 22, plaidèrent non coupable. Alors les jurés furent appelés, et lorsqu'ils récusèrent l'un d'eux, le juge ne voulut pas l'admettre, parce qu'il n'aimait pas la raison qu'il donnait, à savoir qu'il voyait en lui de l'envie, des préjugés et une vaine contenance. Un autre fut récusé, parce qu'on l'avait entendu dire qu'il espérait que, sous peu, les Quakers seraient traduits à la barre et bannis vers quelque contrée où il n'y aurait rien que des ours. À cela, le tribunal éclata de rire, pourtant la récusation fut admise et l'homme écarté. Les prisonniers ne jugeant pas convenable de faire d'autres récusations, le jury fut assermenté. Puis deux témoins furent appelés, qui attestèrent tout au plus que, dans tel lieu, ils avaient surpris telles personnes assemblées, dont les noms étaient spécifiés par écrit. Alors les prisonniers dirent au jury de prendre garde, de ne pas jouer ni badiner avec les choses saintes, et que les choses qui concernaient la conscience étaient des choses saintes. Et de même qu'un homme ne doit pas jouer avec la santé ou la maladie de son voisin, de même il ne doit pas jouer avec la liberté ou le bannissement de son voisin. Et là où on les accusait d'être des sectaires méchants, dangereux et séditieux, cela n'était pas vrai, car ils n'étaient pas méchants, mais des gens qui s'efforçaient de vivre sobrement, justement et pieusement dans le monde. Quant à la vérité de cela, ils en appelaient à eux-mêmes. Ils n'étaient pas non plus séditieux mais pacifiques. Et là où on les chargeait de ne pas venir entendre la prière commune, c'était faux, car le livre du service n'était pas entièrement imprimé plusieurs semaines après le dit 29 juin, de sorte qu'on ne pouvait les accuser d'avoir négligé d'entendre ce qu'on ne pouvait entendre lire nulle part. Cela embarrassa le tribunal, et d'autres raisons troublantes furent aussi données par les prisonniers, dont quelques-uns étaient des hommes de savoir, si bien que le juge ne put répondre aux objections que par confusion et esquive. Enfin, le jury sortit pour délibérer, et l'un d'eux fut entendu dire en montant l'escalier : « Voici vraiment un acte à accomplir que de condamner une compagnie d'hommes innocents. » Après quelque temps, le jury revenant, et ayant été demandé si les prisonniers à la barre étaient coupables ou non coupables, ils dirent qu'ils étaient coupables en partie et non coupables en partie. Mais ce verdict ne plut pas au juge. Le jury sortit donc de nouveau, et se persuadant les uns les autres, revint promptement et déclara les prisonniers coupables, conformément à la teneur de l'acte d'accusation. Alors le juge Onslow prononça la sentence, à savoir qu'ils devaient retourner en prison et y demeurer 3 mois sans caution, et que s'ils ne faisaient pas soumission comme la loi l'ordonnait, soit à l'issue soit avant la fin desdits 3 mois, alors ils devaient abjurer le royaume, mais qu'au cas où ils refuseraient de faire abjuration, qu'après l'avoir fait ils s'abstiendraient de quitter le royaume dans le délai prescrit, ou reviendraient sans licence, ils seraient poursuivis comme des félons. Juste avant que la sentence fût prononcée, le juge dit à l'un des prisonniers qu'il y avait un moyen d'échapper à la peine, à savoir la soumission. Et interrogé sur ce qu'était la soumission, le juge répondit « Venir à la prière commune et s'abstenir de ses réunions ». Les prisonniers donnant des raisons de refuser l'une et l'autre, le juge dit « Alors vous devez abjurer le pays ». « Abjurer », répondirent les prisonniers, c'est renier par serment, à quoi l'un des magistrats dit en riant « Et vous ne pouvez pas jurer du tout ». Comme si ce n'était qu'une plaisanterie de traiter ainsi des hommes religieux. Mais ils avaient déjà fait savoir au jury qu'ils mourraient plutôt que de faire cela. Combien de temps ils furent détenus et comment ils furent relâchés, je n'ai pu l'apprendre, mais je sais ceci, que beaucoup, en pareil cas, ont été longtemps gardés en prison, jusqu'à ce que parfois ils fussent mis en liberté par la proclamation du roi. Procès de John Crook pour n'avoir pas prêté le serment d'allégeance. John Crook était juge de paix et l'un des premiers convertis de George Fox aux Enfants de la Lumière. Fox séjournait souvent chez le juge Crook au cours de ses voyages. Lorsque Crook devint Quake, il perdit bientôt sa charge de juge de paix, mais demeura un précieux ami, aidant fréquemment George Fox dans son ministère. Sa connaissance du droit est manifeste dans son procès. À Londres, il advint que John Crook fut tiré d'une réunion tenue à Londres, dans John Street, par un certain Millet, bien qu'il ne fût pas en charge. Et lui, avec d'autres, fut conduit à son procès devant le Lord Maire de Londres, le Record de la ville, le juge en chef Forster, et d'autres juges et magistrats, parmi lesquels se trouvait aussi Richard Brown. Par le procès de John Crook, nous pouvons juger, à titre d'exemple, d'autres procès des Quakers, J. Crook fut conduit au palais des sessions de L. Old Bailey, avec deux de ses amis, à savoir Isaac Gray, médecin, et John Bolton, orfèvre. L'un des prisonniers fut appelé à la barre, et alors le juge en chef commença le procès. « Juge en chef, à quelle réunion étiez-vous, prisonnier ? Je demande à être entendu, où est mon accusateur, juge en chef ? Votre langue ne vous appartient pas, et vous ne devez pas avoir la liberté de dire ce que vous souhaitez. » Prisonnier, je parle en présence et dans la crainte du Dieu éternel, que ma langue ne m'appartient pas, car elle est au Seigneur, et doit être disposée selon son bon plaisir, et non pour prononcer mes propres paroles. C'est pourquoi je demande à être entendu. Je suis depuis si longtemps en prison. Alors il fut interrompu par le juge. Juge, laissez votre jargon. Puis le juge ordonna qu'on l'emmenât, ce qui fut fait par le geôlier. Ceci était l'essentiel de ce que le prisonnier dit ci-dessus avait prononcé la première fois. Juge, appelez John Crook à la barre. Ce que fit le crieur, lui se trouvant parmi les felons comme il a été dit. « Juge, quand avez-vous prêté le serment d'allégeance, John Crook ? Je demande à être entendu. » Juge, répondez à la question, et vous serez entendu. « John Crook, voilà environ 6 semaines que je suis en prison, et me voilà maintenant appelé à m'accuser moi-même, car répondre négativement à cette question, c'est m'accuser moi-même, ce que vous ne devriez pas me contraindre à faire. Il existe des statuts légaux qui l'interdisent. » Je suis anglais, et selon la loi d'Angleterre, je ne dois pas être saisi, ni emprisonné, ni dépossédé de mon bien en franc aleu, ni mis en cause, ni sommé de répondre, sinon selon la loi du pays. Ce que je revendique comme mon droit de naissance pour moi-même et pour tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, ou des paroles de ce sens. Je me tiens ici à cette barre comme un délinquant, et je demande que mon accusateur soit amené pour m'accuser de ma délinquance, et alors je répondrai à l'accusation si je suis coupable de quoi que ce soit, juge en chef. On vous somme ici de prêter le serment d'allégeance, et quand vous l'aurez fait, alors vous serez entendu sur le reste, car nous avons pouvoir de le présenter à tout homme. John Crook. Pas à moi en cette occasion, en ce lieu, car on m'amène ici comme un délinquant déjà, et non pour faire de moi ici un délinquant, et nul ne doit être obligé de se trahir ni de s'accuser lui-même, car je suis anglais comme je vous l'ai dit, et je réclame le bénéfice des lois d'Angleterre, car par elles il m'est échu en tant qu'anglais un héritage meilleur que celui reçu de mes parents, car par le premier le second est préservé, et cela se trouve au chapitre 29 de la Magna Carta, et dans la pétition Wright mentionnée. y et dans d'autres bonnes lois d'Angleterre, et c'est pourquoi je demande leurs bénéfices et leur observance, et vous qui êtes juge au banc, vous devriez être mes conseils, et non mes accusateurs, mais m'informer du bénéfice de ces lois, et là où j'ignore, vous devez m'instruire, afin que je ne souffre pas par ma propre ignorance des avantages que les lois d'Angleterre me donnent en tant qu'Anglais. Lecteur, je vous donne ici un bref récit de mon arrestation et de mon emprisonnement, afin que vous puissiez mieux juger quelle justice je reçus du tribunal susmentionné. Le voici, étant dans John Street à Londres, vers le 13 jour du troisième mois appelé mai, avec quelques autres du peuple de Dieu pour l'attendre. Comme nous étions assis ensemble, entra un homme grossier appelé Millet, tenant une longue canne à la main, qui porta sur moi des mains violentes, ainsi que sur quelques autres en frappant certains, et en commandant aux constables, qui entrèrent après lui, mais n'ayant aucun mandat, il n'était pas disposé à intervenir. Toutefois, comme ces menaces l'emportèrent, eux le craignant s'associèrent à lui pour nous conduire, plusieurs d'entre nous devant le juge Paul ainsi nommé, qui le lendemain nous envoya aux sessions à Hickroll, ou après plus. Juge en chef, nous siégeons ici pour rendre la justice, et nous y sommes par serment, et c'est à nous de vous dire ce qui est le droit, et non à vous de nous le dire. Donc, drôle, vous êtes trop hardi. John Crook, drôle n'est pas un mot qui convienne à un juge, car je ne suis pas un felon, et vous ne devriez pas menacer le prisonnier à la barre. Car je me tiens ici inculpé comme pour ma vie et ma liberté, et pour la préservation de ma femme et de mes enfants, et de mes biens extérieurs étant maintenant en jeu. C'est pourquoi vous devez m'entendre pleinement, pour tout ce que je puis dire en ma propre défense selon la loi, et en son temps, comme il m'est donné de parler. J'espère donc que le tribunal supportera que je sois hardi à affirmer ma liberté, en tant qu'Anglaise et en tant que chrétien, et si je parle fort, c'est mon zèle pour la vérité et pour le nom du Seigneur, et mon innocence me rend hardi juge. Interrompant John Crook, c'est un mauvais zèle, John Crook, non. Je suis hardi, au nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Éternel, d'affirmer la vérité et de me tenir comme témoin pour elle, que mon accusateur soit amené, et je suis prêt à répondre devant toute cour de justice. Alors le juge m'interrompit, disant drôle, avec d'autres paroles dont je ne me souviens pas, mais je répondis John Crook. Vous ne devez pas me menacer, et ces menaces ne conviennent pas à la bouche d'un juge. Car la sûreté du prisonnier dépend de l'impartialité du tribunal, et vous ne devez pas vous conduire comme des parties, cherchant tout avantage contre le prisonnier, sans prêter attention à quoi que ce soit qui puisse servir à sa justification ou à son avantage. Le juge m'interrompit de nouveau, disant « Juge, drôle, vous devez prêter le serment, et ici nous vous le présentons disant « Lisez-le, John Crook. Que je voie mon accusateur, afin que je sache pour quelle cause j'ai été emprisonné 6 semaines, et ne me contraignez pas à m'accuser moi-même en me posant des questions, mais que mon accusateur se présente, ou bien qu'on me libère par proclamation, comme vous devez le faire, et ici je fus de nouveau interrompu, juge Twisden. Nous ne tenons aucun compte de votre présence ici autrement que comme d'un vagabond, ou comme de toute autre personne, ou comme des gens qui sont ici aujourd'hui, car nous pouvons présenter le serment à tout homme. » Et un autre juge parla dans le même sens, John Crook. Je suis ici à votre barre comme prisonnier, privé de ma liberté, et je me demande si, en justice, vous devez me présenter le serment au motif pour lequel je suis maintenant traduit devant vous, puisque je suis supposé être un contrevenant, sinon pourquoi ai-je déjà été 6 semaines en prison? Faites que je sois blanchi de mon emprisonnement, et alors je répondrai à ce qui est allégué contre moi, et à la question maintenant posée, car je suis de toute mon âme un ami de la justice et je suis bien connu de mes voisins, là où j'ai vécu comme gardant une conscience sans offense tant envers Dieu qu'envers les hommes. Juge, drôle, laissez votre jargon, John Crook. Est-ce du jargon que de prononcer les paroles de l'Écriture, juge? C'est du jargon dans votre bouche, bien que ce soit des paroles de Paul. John Crook, je prononce les paroles de l'Écriture, et ce n'est pas du jargon, même si je les prononce, mais ce sont dans ma bouche des paroles de vérité et de sobriété, attestées en moi et accomplies en moi. Juge, nous vous demandons de nouveau si vous voulez prêter le serment d'allégeance. Ce n'est qu'une courte question, vous pouvez répondre si vous le voulez. John Crook, en vertu de quelle loi avez-vous pouvoir de me le présenter? Alors, après s'être consultés à voix basse, ils demandèrent le livre des statuts et, en tournant les feuillets, répondirent, juge, par le 3e du roi Jacques. John Crook, je demande que ce statut soit lu, car je l'ai consulté, et je ne comprends pas que vous ayez, par ce statut, pouvoir de me présenter le serment, étant ici devant vous en ce lieu, en cette occasion déjà comme délinquant. Et c'est pourquoi je demande le jugement du tribunal en cette affaire, et que le statut soit lu. Alors ils prirent le livre des statuts et s'y consultèrent, et l'un dit, « Nous sommes les juges de ce pays, et nous comprenons mieux notre pouvoir que vous, et nous jugeons que nous pouvons le faire légalement. » John Crook, est-ce là le jugement du tribunal? Juge, oui. John Crook, je demande que le statut soit lu, celui qui vous autorise à me présenter le serment en cette occasion et en ce lieu, car vox audita peri, sed litera scripta manet, donc que je l'entende lire. Juge, écoutez-moi, John Crook. Je suis aussi disposé à écouter qu'à parler, juge. Alors écoutez-moi, le tribunal vous requiert ici de prêter le serment, et je vous informerai de la peine encourue si vous refusez, car votre premier refus sera consigné, et ensuite on vous le présentera de nouveau à la fin des sessions, et au second refus vous tombez dans une promunire, qui est la confiscation de tous vos biens si vous en avez et l'emprisonnement, John Crook. C'est la justice que je réclame, qu'on me rende justice en amenant mon accusateur face à face comme, selon la loi, vous devez le faire puisque je me tiens à votre barre comme un délinquant, et quand cela sera fait, je répondrai à ce qui pourra être allégué contre moi, ainsi qu'à la question. Jusque-là, je ne donnerai pas d'autre réponse que celle que j'ai déjà donnée, du moins pour l'instant. Alors il y eut un cri dans le tribunal, « Emmenez-le », ce qui causa une grande interruption, et J. Crook parla en ce sens, disant, « Ayez à l'esprit la crainte du Seigneur Dieu, afin que vous parveniez à connaître sa volonté et à rendre justice, et prenez garde d'opprimer l'innocent, car le Seigneur Dieu du ciel et de la terre plaidera assurément leur cause, et pour ma part, je ne désire pas le mal d'un seul cheveu de vos têtes, mais que la sagesse de Dieu vous guide. » Ces paroles, il les prononça à la barre, et comme on l'emmenait. Le sixième jour de la semaine, dans la matinée suivante, le tribunal étant assis, John Crook fut appelé à la barre, juge. « Ami Crook, nous vous avons donné le temps de considérer ce que le tribunal vous a dit hier, espérant que vous l'aurez mieux considéré d'ici, donc sans plus de paroles, prêterez-vous le serment. » Et il appela le greffier et lui dit de le lire, « John Crook. Je n'ai pas renié, et je ne renie pas l'allégeance, mais je demande à connaître la cause de mon si long emprisonnement. Car comme je l'ai dit, je me tiens à votre barre comme un délinquant et j'y suis amené par force, contrairement à la loi. Donc je vois mon accusateur ou bien libérez-moi par proclamation comme je devrais l'être si nul ne peut m'accuser, car la loi est fondée sur la droite raison et tout ce qui est contraire à la droite raison est contraire au droit. Et donc si nul accusateur ne se présente, vous devez d'abord m'acquitter. » Juge, lisez-lui le serment. Et ainsi le greffier commença à lire. « John Crook, je demande justice selon les lois d'Angleterre, car vous devez d'abord me convaincre quant à la cause de mon si long emprisonnement. Car vous devez procéder selon les lois déjà faites, et non faire des lois, car vous devez être des ministres de la loi, juge. Vous êtes un homme insolent et impudent. Allez-vous nous dire ce qui est le droit ou nos devoirs ? » Puis il dit au greffier, « Continuez de lire. » Et lorsque le greffier eut terminé la lecture, John Crook dit, « Lisez la préface de l'acte. Je le répète, lisez le titre et le préambule de l'acte, car les titres des lois sont clave-le-gomme, comme des clés pour ouvrir la loi. » Car par leurs titres les lois sont comprises et connues, comme les hommes par leur visage. Alors les juges voulurent m'interrompre, mais je dis ce qui suit. Si vous ne voulez pas m'entendre, ni me rendre justice, je dois en appeler au Seigneur Dieu du ciel et de la terre, qui est juge des vivants et des morts, devant qui nous devons tous comparaître pour rendre compte des actes accomplis dans le corps. Car il jugera entre vous et moi aujourd'hui, pour savoir si vous m'avez rendu justice ou non. Ces paroles suivantes ou semblables, je les prononçais en quittant la barre comme on m'en arrachait, à savoir, « Ayez à l'esprit la crainte du Seigneur Dieu, afin de rendre justice de peur de périr dans sa colère. » Car tantôt le tribunal criait, « Arrachez-le », puis disait, « Ramenez-le », et ainsi ils firent plusieurs fois, comme des hommes en confusion et en désordre. Le même jour, l'après-midi, le silence s'étant fait, John Crook fut appelé à la barre devant les juges et magistrats susdits. L'acte d'accusation ayant été lu, le juge dit, « M. Crook, vous avez entendu votre acte d'accusation. Que dites-vous ? Êtes-vous coupable ou non coupable, John Crook ? Je demande à dire quelques mots avec humilité et sobriété, puisque mes biens et ma liberté sont en jeu, et je suis susceptible de faire jurisprudence pour beaucoup d'autres. C'est pourquoi j'espère que le tribunal ne me refusera pas le droit et le bénéfice de la loi en tant qu'anglais. J'ai quelques raisons, avant de dire quoi que ce soit à l'acte d'accusation, de demander et de vous dire que je souhaite connaître mes accusateurs. J'ai été gardé ces 6 semaines en prison, et je ne sais pas, ni n'ai vu leur visage. Juge, nous vous accorderons le droit de la loi, en tant qu'anglais. Dieu ne plaise qu'on vous le refuse, mais vous devez répondre d'abord, coupable ou non coupable, afin que dans votre procès, vous puissiez être entendu et plaider équitablement. Mais si vous continuez comme vous le faites et ne répondez pas coupable ou non coupable, vous vous exposerez à une promunire, et alors vous perdez le bénéfice de la loi, et vous vous exposez corps et bien à de grands dangers, et quelle que soit la violence exercée contre votre personne ou vos biens, vous êtes hors de la protection du roi, et vous perdez le bénéfice de la loi. Si vous plaidez non coupable, vous pourrez être entendu, John Crook, il est consigné dans les statuts du 28 aide ou 3, et 3, et du 42 aide ou 3, et 3. En ces termes, nul homme ne doit être saisi ou emprisonné ou contraint de répondre sans dénonciation devant des juges ou matière portée au registre ou par procédure régulière ou bref originaire selon l'ancienne loi du pays. et si quoi que ce soit est désormais fait au contraire, cela sera nul en droit et tenu pour erreur. Et aussi dans le 25e Edo, 1, 2 et le 3 car, 1 et le 29 cap, mag char, c'est nul homme libre ne sera saisi et emprisonné sinon par la loi du pays. Ces mots la loi du pays sont expliqués par le statut de 37 Edo 3, 8 comme étant sans procédure régulière en droit, et si des jugements sont rendus contre la mag char, ils sont nuls 20 Edo 1, 2 juge, M. Crook, vous faites fausse route, et vous ne comprenez pas le droit, bien que vous adoriez tant le droit statutaire, vous ne le comprenez pourtant pas. John Crook, je voudrais que vous me disiez la bonne voie, juge, M. Crook, écoutez-moi, vous devez dire coupable ou non coupable, si vous plaidez non coupable, vous serez entendu, et vous saurez jusqu'où la loi vous favorise. Et la chose suivante est que, quelle que soit la circonstance qui soit la cause de votre emprisonnement, que vous contestez, vous avez en tant que sujet vos recours, si vous voulez emprunter cette voie, écarter le reste et répondre coupable ou non coupable. Et ce que la loi vous accorde, vous l'aurez si vous faites ce que la loi exige. Sinon, vous perdrez le bénéfice de la loi, et vous serez hors de la protection du roi. John Crook, remarquez comme le juge voudrait m'attirer dans un piège, à savoir, en me faisant plaider d'abord coupable ou non coupable, et quand je l'aurai fait, lui et ses collègues entendent aussitôt me mettre comme personne mise hors la loi, hors de la protection du roi, et alors comment puis-je obtenir réparation pour mon emprisonnement illégal? Donc, d'abord, blanchissez-moi ou condamnez-moi quant à mon emprisonnement illégal tant que je suis en état de bénéficier de la loi, et ne me mettez pas hors la loi pour une offense créée par vous-même. Puis, pour me fermer la bouche, vous me dites que si j'ai été lésé ou illégalement emprisonné, je pourrai avoir réparation plus tard. C'est me tendre un piège, et c'est contraire tant au droit qu'à la justice, etc. Juge, vous devez plaider coupable ou non coupable, John Crook. Je désire dire avec humilité et douceur que je ne le ferai pas. Je n'ose trahir l'honnêteté de ma cause, ni les honnêtes gens de cette nation, dont je défends la liberté autant que la mienne. Comme j'ai lieu de penser que je le ferai si je plaide sur le présent acte d'accusation avant de voir les visages de mes accusateurs. Car en vérité, je ne suis pas satisfait, dans mon jugement et ma conscience, que je doive plaider à une offense créée par vous, avant d'être d'abord acquitté quant à la cause pour laquelle on m'a amené prisonnier à votre barre. Juge, le plus fieffé voleur peut dire qu'il n'est pas satisfait dans sa conscience. John Crook, mon cas n'est pas le leur, pourtant ils ont leurs accusateurs, et ne puis-je pas appeler les miens? Et donc appelez-les, car vous devez le faire, comme le Christ dit à la femme, « Femme, où sont tes accusateurs ?» Ainsi vous devriez me dire, « Homme, où sont tes accusateurs ?» Interruption, juge, votre acte d'accusation est votre accusateur, et le grand jury vous a déclaré coupable parce que vous n'avez pas juré? Que dites-vous, M. Crook, êtes-vous coupable ou non coupable? Si vous ne voulez pas répondre, ou si ce que vous avez dit doit être pris pour votre réponse, comme je vous l'ai déjà dit, vous perdez le bénéfice de la loi. Et ce que je vous dis, c'est pour votre bien. John Crook, ce qui est pour le bien, j'espère le prendre comme tel, juge. Si vous ne répondez pas, vous vous exposez à une prémunir, et vous perdrez le bénéfice de la loi et la protection du roi, à moins de plaider coupable ou non coupable. John Crook, je me tiens ici comme amené de force et violemment. Je n'aurais pas été ici sans une action violente, et que vous n'en teniez aucun compte me semble étrange. Et non seulement cela, mais que vous me précipitiez si vite dans une voie où je ne pourrais d'aucune manière m'aider moi-même, en raison de votre procédure hâtive et expéditive contre moi, pour me mettre hors de la protection du roi et du bénéfice de toute loi. A-t-on jamais connu ou entendu chose pareille dans une cour de justice, juge? Ami, il n'est pas ici en question de savoir si vous êtes injustement amené ici ou non. Contestez cela par la loi, mais ne vous rendez pas incapable de tirer avantage de la loi. Si vous êtes amené par une mauvaise main, vous avez une défense contre eux, mais vous devez d'abord répondre coupable ou non coupable. John Crook, comment puis-je m'aider lorsque vous m'avez mis hors la loi? Faites donc proclamer au tribunal que j'ai été amené ici par force, et que je sois déclaré quitte par proclamation, comme vous devez le faire, car vous devez déterminer selon la loi ce qui est juste, et non faire ce qui semble bon à vos propres yeux. Ici je fus encore interrompu, mais j'aurais pu citer les paroles du juge Crook dans l'affaire Hampden, qui dit que nous qui sommes juges parlons sur nos serments, et devons donc rendre nos jugements selon nos consciences, et que la faute retombera sur nous si c'est illégal et que nous le rendions. Telles furent ces paroles, que j'aurais pu dire, mais je fus interrompu, juge. Quoiqu'en bien même personne ne vous aurait présenté le serment lors de votre incarcération, comme vous le dites, puisqu'il vous est maintenant présenté, à partir du moment où vous l'avez refusé, étant présenté par une autorité légitime, vous êtes inculpé. Nous ne regardons pas à ce pourquoi vous êtes ici, mais vous trouvant ici, afin de déterminer par la loi ce qui est juste, nous vous présentons le serment, et vous le refusant, votre emprisonnement est désormais juste et conforme à la loi. Quelque chose est omis de ce que je dis ensuite. John Crook, comment suis-je venu ici? Si vous ne le savez pas, je vous ai dit que c'est par force et violence que notre droit condamne entièrement. Et donc, n'étant pas légalement devant vous, je ne suis pas devant vous, car ce qui n'est pas légalement ainsi, n'est pas ainsi. et n'ayant pas été légalement amené à votre bar, vous ne devriez pas tenir compte de ma présence ici. » Juge, non, non, vous vous trompez. Ainsi pourriez-vous dire de tout le peuple qui se tient ici à regarder qu'il n'étant pas légalement ici, il n'est pas ici. Je vous dis qu'un homme amené ici de force, nous pouvons lui présenter le serment, et s'il ne le prête pas, il peut être écroué. L'autorité nous a donné ce pouvoir, et le droit statutaire nous a donné autorité pour présenter le serment à toute personne, et ainsi nous vous l'avons présenté, et pour ne pas l'avoir prêté, vous êtes inculpé par le grand jury. Répondez à l'accusation ou réfutez l'acte d'accusation. Vous devez faire l'un ou l'autre, répondez coupable ou non coupable. Si je fus interrompu, mais j'aurais pu dire que les gens qui étaient spectateurs, regardant et entendant les procès, ne doivent pas être appelés badauds comme le juge les nomme, parce que c'est leur liberté et leur privilège en tant qu'anglais et la loi d'Angleterre le permet, de sorte qu'ils ne doivent pas être qualifiés de badauds pour cette raison, mais sont légalement en ce lieu pour entendre les procès et voir la justice s'exercer. Et ils auraient pu dire, si l'occasion s'en était présentée, quoi que ce soit pour la défense du prisonnier, tendant. John Crook, la loi est bâtie sur la droite raison, ou la droite raison est la loi, et tout ce qui est contraire à la droite raison est contraire au droit, la raison de la loi étant la loi elle-même. Je ne suis pas juriste, et ma connaissance en est fort petite, toutefois je l'ai aimée pour la raison que j'y ai trouvée, et j'ai consacré quelques heures de loisir à la lire, et c'est la loi que j'honore, et elle est bonne en son lieu, beaucoup de lois étant justes et bonnes, pas toutes, mais dis-je une grande part d'entre elles, ou beaucoup d'entre elles, et il n'est pas du tout dans mon intention de les rabaisser ni d'y déroger. Juge M. Crook, on vous a dit que vous devez plaider coupable ou non coupable, sinon vous vous exposez à une promunire, ne soyez pas votre propre ennemi, et ne soyez pas si obstiné. John Crook, je ne voudrais pas me tenir obstinément devant vous, et je ne le suis pas, si vous l'entendez autrement, c'est vraiment une erreur, juge. Voulez-vous parler à l'acte d'accusation, et ensuite vous pourrez plaider? Si vous ne voulez pas répondre coupable ou non coupable, nous l'inscrirons au registre et jugement sera rendu contre vous. Greffier, inscrivez-le. Record. M. Crook, si vous répondez, vous pourrez plaider pour vous-même. Ou bien prendrez-vous le serment? Le tribunal ne tient aucun compte de la manière dont vous êtes venu ici. Que dites-vous? Répondrez-vous. Car on peut tirer un homme de Smithfield par la tête et les épaules, lui présenter le serment et l'écrouer sans tenir compte de la manière dont il est venu ici. John Crook. Une telle manière de procéder n'est pas seulement injuste, mais aussi déraisonnable. Ici il y eut quelques interruptions, et contraire aux lois susdites, qui disent « Nul homme ne sera saisi ni emprisonné sinon par mandat ou procédure régulière en droit ». Ainsi, ce propos du Record sent davantage la passion que la justice, et la cruauté plutôt que le respect dû à la loi, car toute privation forcée de la liberté d'un homme est un emprisonnement en droit. De plus, cette pratique qui consiste à prendre des hommes de force, à les emprisonner, puis à leur poser des questions dont les réponses les rendent coupables, n'est pas seulement injuste en elle-même, mais aussi contraire au droit. Et elle fait d'un acte mauvais le fondement d'un autre, et d'un tort fait à l'un la base d'un autre, et c'est mon cas aujourd'hui. Interruption, juge, M. Crook, vous ne devez pas être votre propre juge, nous sommes vos juges, mais pour notre part, nous ne vous laisserons pas, répondrez-vous coupable ou non coupable. Sinon, vous vous exposerez inévitablement à une promunire, et alors vous savez ce que je vous ai dit qui s'en suivrait, car nous ne tenons aucun compte de la manière dont vous êtes venu ici, mais vous trouvant ici, nous vous présentons le serment. John Crook. Alors il semble que vous fassiez de la loi un dessein pour m'attraper, ou une cire molle, ou ce qu'il vous plaît. Eh bien, je laisse ma cause au Seigneur Dieu, qui plaidera pour moi en justice. Mais supposez que je prête le serment maintenant, en ce moment, vous pourriez me rappeler encore demain et faire une nouvelle présentation. Ou d'autres pourraient me faire comparaître devant eux, juge. Oui, s'il y a du nouveau, ou si quelque occasion imprévue survient par laquelle vous pourriez, de votre côté, fournir une nouvelle occasion. M. Crook, jurez-vous. John Crook, si je le prête aujourd'hui, on peut me le présenter de nouveau demain, et ainsi le jour suivant, ad infinitum, de sorte qu'une grande partie de mon temps pourrait être dépensée et absorbée à prêter le serment et à jurer. Juge, quand vous aurez juré une fois, on ne pourra pas vous y contraindre de nouveau, sauf si vous fournissez de votre côté un motif nouveau, John Crook. Est-ce là le jugement du tribunal, que le serment une fois prêté par moi suffit, et ne doit pas m'être présenté une seconde fois, sans fait nouveau fourni de mon côté, juge? Oui, pourvu que vous fassiez apparaître que vous l'avez une fois prêté. John Crook, est-ce le jugement de tout le tribunal, car je ne voudrais rien faire témérairement? Les juges, oui, c'est le jugement du tribunal, à quoi ils dirent tous, se levant, oui, John Crook. Il semble donc qu'il doive y avoir quelques nouvelles circonstances provoquées par moi après que je l'ai prêté une fois, sinon on ne devrait pas me le présenter une seconde fois. Juge, oui, John Crook. Alors, selon le jugement de cette cour, si je puis faire apparaître que j'ai prêté serment une fois et que je n'ai de mon côté introduit aucune chose nouvelle qui puisse me faire justement accuser de l'avoir enfreint, alors on ne devrait pas me le présenter une seconde fois, mais je suis l'homme qui l'a prêté une fois, étant franc-bourgeois de la cité de Londres, lorsque j'ai été admis à la franchise, les registres du Guildhall en témoignent que je puis produire, et aucune chose nouvelle n'apparaissant de mon côté à vos yeux, s'il y en. Interrompu par les cris de la cour, au moment où ces derniers mots auraient pu être prononcés, juge M. Crook, vous vous trompez, vous ne devez pas croire surprendre la cour par des critiques, ni tirer de fausses conclusions de nos jugements. John Crook, si ce n'est pas une conclusion naturelle tirée du jugement de la cour, que la droite raison en juge, et si, dans le même souffle, pour ainsi dire, vous vous écartez de vos propres jugements, rendus à l'instant même, quelle justice puis-je attendre de vous? Car si vous n'êtes pas juste envers vous-même, et envers vos propres jugements, comment puis-je attendre que vous soyez juste envers moi, juge, M. Crook, si vous l'avez prêté, s'il y a une nouvelle urgence, vous devez le prêter de nouveau. Par exemple, le roi était hors d'Angleterre et maintenant il y est revenu. Beaucoup l'ont prêté il y a 20, 30 ou 40 ans et pourtant cette nouvelle urgence l'exige encore. Et bien que vous l'ayez prêté, vous ne devez pas le faire apparaître avant de répondre coupable ou non coupable. Par conséquent, ne vous faites pas tort et ne vous portez pas préjudice à vous et à votre famille. Croyez-vous que n'importe quel quidam qui vient ici va argumenter comme vous? Nous n'avons rien d'autre à faire que de savoir de vous si vous voulez répondre, coupable ou non coupable, ou prêter serment, et alors vous serez déchargé de l'acte d'accusation. Si vous ne voulez pas plaider, greffier, consignez-le. Que dites-vous? Êtes-vous coupable ou non coupable, John Crook? Ne vous tiendrez-vous pas à vos propres jugements? N'avez-vous pas dit, tout à l'heure, que si j'avais prêté serment une fois, on ne devait pas me le présenter une seconde fois, à moins que je n'aie de mon côté introduit quelque chose de nouveau montrant que je ne l'ai pas respecté. Mais aucune chose de ce genre n'apparaissant, vous ne devez pas me le présenter une seconde fois selon votre propre aveu, et encore moins m'inculper pour avoir refusé. Juge, si vous ne plaidez pas, nous l'inscrirons au procès-verbal et jugement sera rendu contre vous. Dites donc, coupable ou non coupable, sinon nous l'inscrirons, le greffier commençant à l'inscrire, John Crook. Avant de répondre, je demande une copie de mon acte d'accusation, car j'ai entendu affirmer par des avocats versés en droit que, si je plaide avant d'en avoir une copie, ou avant d'avoir formulé mes exceptions ultérieures contre l'acte d'accusation seront annulées. Je désire donc une copie de l'acte d'accusation. Juge, celui qui a dit cela ne mérite pas le nom d'avocat, car la loi est que vous devez d'abord répondre, et ensuite vous aurez une copie. Plaiderez-vous coupable ou non coupable, John Crook? Si le fait de plaider coupable ou non coupable ne me prive pas du bénéfice d'obtenir l'annulation de l'acte d'accusation, pour insuffisance ou autre exception que je pourrais lui opposer, j'y répondrai. Juge, non, cela ne vous en privera pas. Répondez-vous, coupable ou non coupable, si vous ne plaidez pas, l'acte d'accusation sera retenu contre vous. Répondrez-vous. Nous n'attendrons pas davantage. John Crook, j'y suis presque. Le fait de plaider ne me privera-t-il pas du bénéfice de la loi? Car je suis scrupuleux à cet égard parce que ce n'est pas seulement mon affaire, mais cela peut être celle de milliers d'autres, c'est pourquoi je ne voudrais rien faire qui puisse porter préjudice aux autres ou à moi-même, comme chrétien ou comme anglais. Juge, comprenez bien, mais nous ne ferons pas de marché avec vous, dit un autre juge, on vous fera droit comme à tout anglais, la voie est de répondre, coupable ou non coupable. Si vous plaidez et que vous trouvez l'acte d'accusation défectueux, vous pourrez obtenir réparation, répondez, coupable ou non coupable, John Crook. Quant à l'acte d'accusation, il est très long, paraît confus et composé de choses vraies et de choses fausses. Ma réponse par conséquent est la suivante, ce qui est vrai dans l'acte d'accusation, je ne le nierai pas, parce que je fais cas de conscience de ce que je dis, et donc de ce qui est vrai, je me reconnais coupable, mais de ce qui est faux, je ne suis pas coupable, juge. Cela n'est pas suffisant, répondez soit coupable, soit non coupable, ou jugement sera rendu contre vous. John Crook, je dirai la vérité comme devant le Seigneur, comme je me suis efforcé de le faire tout du long, je ne suis pas coupable de ce qui est faux, contenu dans l'acte d'accusation, ce qui en est la substance. Juge, assez, la forme ne signifie rien, coupable ou non, John Crook, je ne dois pas trahir ma conscience, je ne suis pas coupable de ce qui est faux, comme je l'ai dit auparavant, de ce qui est vrai, je suis coupable, de ce qui n'est pas vrai, je n'en suis pas coupable, ce qui en est la substance, comme je l'ai dit auparavant, greffier, c'est suffisant et cela fera l'affaire. Inscrivez cela, greffier, le septième jour de la semaine, appelé samedi. Le silence ayant été imposé, John Crook fut appelé à la barre. Le greffier des assises lut quelque chose concernant le jury, qui avait été spécialement composé, comme nous l'avons dit, le jury ayant été récusé, composé de témoins oculaires de ce qui s'était passé entre nous et la cour, et ce jury-ci comptait plusieurs soldats dont certains avaient par violence et force arraché et traîné des amis hors de leur réunion, et certains d'entre nous hors de nos maisons, et cela faisait partie du jury par lequel nous devions être jugés. Le greffier lisant l'acte d'accusation, si je m'en souviens, John Crook. Je demande à être entendu en quelques mots, qui sont ceux-ci, que nous ayons liberté jusqu'aux prochaines sessions trimestrielles de contester l'acte d'accusation étant long et en latin et susceptible de faire jurisprudence, et j'espère ne pas avoir insisté, car j'ai compris que vous aviez promis, et en particulier le record qui répondit lorsqu'on le demanda, vous l'aurez, que nous aurions aussi des conseils dont on ne peut attendre que nous ayons déjà pu bénéficier le temps étant si court et nous étant détenus prisonniers. Juge, nous vous avons accordé assez de temps, et vous n'en aurez pas davantage, car nous allons vous juger maintenant, faites donc prêter serment au jury. John Crook. Je demande que nous obtenions justice et que nous ne soyons pas surpris lors de notre procès, mais que nous ayons du temps jusqu'aux prochaines sessions trimestrielles, notre acte d'accusation étant en latin et aussi volumineux qu'il l'est, et ce n'est là que ce qui est raisonnable, et c'est la pratique d'autres tribunaux, car si ce n'est qu'une action au-delà de 40 shillings, elle n'est ordinairement pas terminée en moins de 2 ou 3 termes. Et aux sessions trimestrielles, si quelqu'un est inculpé d'un délit, fût-ce pour une valeur de 5 shillings, il aura la liberté d'inscrire sa contestation et sur caution donnée de poursuivre. Il aura la liberté jusqu'à la session suivante, ce qui est la pratique ordinaire, c'est cette liberté que nous demandons, et nous espérons qu'elle est si raisonnable qu'elle ne sera pas refusée, surtout en cette occasion, puisque nous sommes susceptibles d'être érigés en précédent, et les tribunaux de justice ont coutume d'être particulièrement prudents dans l'établi. Juge, il n'y a pas grand-chose de droit dans cette affaire, ce n'est qu'une question de fait, avez-vous refusé de prêter serment ou non, c'est le point litigieux, et quelle question de droit pourrait naître ici, Record, M. Crook, on a parlé au gardien de la prison pour qu'il vous dise que nous avions l'intention de vous juger aujourd'hui, et c'est pourquoi nous lui avons ordonné de laisser venir des conseils auprès de vous si vous le vouliez, et aussi que le greffier vous donne une copie de l'acte d'accusation, c'est équitable, par conséquent nous allons procéder à l'assermentation du jury, car la question est « refusez-vous le serment ou non ?» Et c'est le seul point, et l'affaire ne requiert ni droit ni conseil, et c'est pourquoi nous y avons réfléchi hier soir, lorsque nous vous avons fait dire cela, et nous avons décidé de vous juger. Et il est donc vain de dire quoi que ce soit, car la cour est résolue à vous juger maintenant, faites donc prêter serment au jury, huissier. John Crook, j'espère que vous ne nous surprendrez pas. Alors les autres prisonniers, qui étaient eux aussi inculpés, crièrent après avoir déjà dit quelque chose auparavant, qu'on nous rende justice, et que le jury ne prête pas serment avant que nous ayons d'abord été entendus. Il y eut alors un grand tumulte. La cour étant dans la confusion, certains criaient « emmenez-les », d'autres « attendez, laissez-les », d'autres disaient « allez, faites prêter serment au jury », et l'huissier dans ce vacarme et cette confusion fit quelque chose comme s'il l'avait fait, alors nous criâmes tous pour obtenir justice et la liberté jusqu'à la prochaine session, la cour étant en confusion, les uns criant une chose et les autres une autre, ce dont on ne peut maintenant se souvenir en raison du grand désordre qui régnait dans la cour. Et dans cette cohue et cette confusion parmi eux, certains hommes furent assermentés pour attester que nous avions refusé de prêter serment, ce que nous n'avons jamais fait positivement, d'autres officiers de la cour, que l'on aurait voulu assermenter, refusèrent de prêter serment, et bien qu'on les y pressât par le lord juge en chef, ils demandèrent à être excusés. Alors l'un des prisonniers parla encore assez longuement, mais on pouvait à peine le comprendre à cause du bruit dans la cour. Toutefois le peuple, à qui il parlait d'une voix forte par manière d'exhortation, pouvait entendre l'essentiel de ce qu'il disait, dont on ne peut maintenant se souvenir en détail, mais c'était pour exprimer la présence et l'amour de Dieu pour lui, et exhorter les autres à se tenir dans sa crainte, afin qu'eux aussi puissent connaître Dieu. Juge, faites-lui fermer la bouche, bourreau, ce qui fut fait en conséquence, prisonnier. Alors nous criâmes, ne nous accorderez-vous pas la permission de parler pour nous-mêmes. Nous récusons certains jurés, comme étant nos ennemis, et certains d'entre eux qui, par la force, ont ordonné qu'on nous arrache de nos réunions, contrairement à la loi, et nous ont conduits en prison sans mandat ni autre procédure régulière. Et ce sont eux qui seront nos juges, nous les récusons, juge. Il est trop tard maintenant, vous auriez dû le faire avant qu'ils ne soient assermentés comme jurés. Jurés, concertiez-vous, ce que vous avez à constater, c'est s'ils ont refusé de prêter serment ou non, et il vous a été juré devant vous qu'ils ont refusé, vous n'avez pas besoin de vous éloigner de la barre. Et le record, et d'autres tinrent des propos semblables, la cour étant dans la confusion et le bruit, beaucoup parlant à la fois. Nous criâmes pour obtenir justice, et que nous puissions être entendus afin de présenter notre défense avant que le jury ne rende son verdict. Mais le juge et le record dirent qu'on ne nous entendrait pas confirmant par leur pratique ce que le juge en chef avait dit la veille, à savoir que si nous avions la liberté de parler, nous nous rendrions célèbres et odieux, criant de nouveau, bouchez-leur la bouche, bourreau, ce qui fut fait en conséquence avec un linge sale, et il tenta aussi de me bâillonner, s'efforçant d'attraper. Alors je criai d'une voix forte, nous condamnerez-vous sans nous entendre, c'est nous traiter plus mal que Pilate n'a traité le Christ, qui, bien qu'il l'ait condamné sans cause, ne l'a pas condamné sans l'entendre parler pour lui-même, mais vous nous refusez l'un et l'autre. Juge, que M. Grace avance à la barre. Une place lui ayant été faite, il fut remis à un officier derrière la barre intérieure, où il s'adressa à la cour en ces termes « Je désire savoir si, selon la loi et la pratique de cette cour, moi-même et mes compagnons de détention pouvons avoir la liberté de fournir caution afin de poursuivre notre contestation à la prochaine session. Cour, non, nous allons vous juger sur le champ, juge. Bouchez-leur la bouche, bourreau. » Et tel était le cri de beaucoup sur le banc, la confusion se poursuivant sans cesse, certains criaient au jury « Rendez votre verdict, car nous ne les entendrons pas », avec d'autres paroles qu'on ne pouvait entendre à cause du tumulte, la cour étant dans la confusion. John Crook. Vous auriez tout aussi bien pu faire en sorte que nous soyons assassinés avant de venir ici, que de nous amener ici sous prétexte de nous juger, sans nous donner la permission de présenter notre défense. Vous feriez aussi bien de nous ôter la vie à la barre, plutôt que d'ordonner qu'on nous maltraite ainsi et qu'on nous bouche la bouche. A-t-on jamais vu pareille chose? Que le Dieu juste juge entre nous, m'entendrez-vous? Vous l'avez souvent promis, juge, écoutez-moi et nous vous écouterons. Alors il commença à parler, et d'autres sur le banc l'interrompirent, parfois deux ou trois parlant à la fois, et il y avait du bruit parmi les officiers de la cour. Mais le juge dit, « Nous pourrions vous donner la liberté jusqu'à la prochaine session, mais nous sommes libres d'en décider, et donc nous allons vous juger maintenant. Je dis au peuple de prendre note de leur promesse, selon laquelle je devais avoir la liberté de parler, en disant, « Voyez maintenant si vous valez vos paroles. Juge, la loi d'Angleterre n'est pas seulement juste mais miséricordieuse et par conséquent vous ne serez pas surpris, mais vous aurez la justice que la loi permet. » Interruption. John Crook. Souvenez-vous de ce que le juge a dit à l'instant, à savoir que la loi d'Angleterre est une loi miséricordieuse, que la cour a dit auparavant qu'elle pourrait, si elle le voulait, nous donner la liberté jusqu'à la prochaine session, mais qu'elle ne le ferait pas, et la maxime du droit dit aussi, l'extrême du droit est l'extrême injustice, j'espère donc que votre pratique le confirmera, qu'il s'agit d'une loi miséricordieuse, et qu'on ne fera pas exécuter summa juesse. Contre moi, et que vous ne vous condamnerez pas par vos propres paroles, juge, jurez, rendez votre verdict, John Crook. Accordez-moi d'abord la liberté de parler, ce ne sont que quelques mots, et j'espère le faire avec la brièveté et la pertinence que mon entendement me permettra, et que l'occasion exige. Cela porte sur le point, sous deux chefs, à savoir, matière de droit et matière de conscience. Quant au droit, voici ce que j'ai à dire. Premièrement, s'agissant de la loi elle-même, elle fut faite contre les papistes à l'occasion du complot des poudres, et elle est intitulée « Pour une meilleure découverte et répression des récusants papistes ». Mais eux ont la liberté, et nous sommes détruits, autant qu'il dépend de vous, interrompus par les juges et le tumulte de la cour. Quant à la conscience, j'ai quelque chose à dire, c'est une chose délicate, et nous savons ce que c'est que de l'offenser, c'est pourquoi nous n'osons pas enfreindre les commandements du Christ, qui a dit « Ne jurez point du tout », et l'apôtre Jacques a dit « Par-dessus toute chose, mes frères, ne jurez point », interrompu. La cour appelant de nouveau le bourreau à me boucher la bouche, ce qu'il fit en conséquence, avec son linge sale, comme dit plus haut, et le bâillon à la main, juge. Écoutez le jury, qui lui dit quelque chose qu'on supposa être la remise du verdict selon son ordre, car ils étaient faits pour son dessein, semble-t-il, eux qui commencèrent à mettre leurs têtes ensemble avant que nous leur ayons dit quoi que ce soit, seulement sur ces paroles, juge, huissier, imposez le silence dans la cour. Alors le recode, prenant un papier en main, lui en substance ce qui suit. Le jury pour le roi constate que John Crook, John Bolton et Isaac Gray sont coupables d'avoir refusé de prêter le serment d'allégeance. Pourquoi vous encourez un prémunir, qui est la confiscation de tous vos biens-fonds à vie et de vos biens meubles à perpétuité, et que vous soyez hors de la protection du roi et emprisonné à son bon plaisir, et telle est votre sentence. John Crook, mais nous sommes encore sous la protection de Dieu. Alors les prisonniers furent renvoyés à Newgate, où J. Crook trouva l'occasion de rédiger un récit de tout le procès, qui fut imprimé comme il a été dit plus haut, avec l'acte d'accusation en latin, dans lequel il montra plusieurs erreurs, soit par des formulations fautives, soit par des omissions. Ainsi l'injustice de ces procédures arbitraires fut exposée au regard du public, lorsque ce procès parut imprimé, afin que le roi lui-même puisse voir par là combien mal ses sujets étaient traités. Mais à ce moment-là, il y avait tant de grands personnages et d'évêques enclins à promouvoir l'extirpation des Quakers, qu'il ne semblait y avoir aucun secours humain. John Crook montra aussi, de manière circonstanciée, comment dans beaucoup de cas de procès, ils avaient agi contre la loi, car lui-même, ayant été autrefois magistrat, savait assez bien comment, et de quelle manière, la justice doit être administrée et maintenue. Combien de temps il demeura prisonnier, je ne puis le dire. Mais par ce seul procès, le lecteur peut voir comment les Quakers ainsi nommés furent traités à l'égard du serment, et ce genre de procédure fut le lot de beaucoup d'entre eux, parce que l'intention de ceux qui détenaient l'autorité semblait être de les détruire. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant. Galates 4, 29. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.